la bibliothèque En Vadrouille, en ce 31 mars 2017, propose un petit entretien avec Marc-Antoine Mathieu. Bonjour.
Bonjour.
Donc, nous sommes au vernissage de votre exposition, ici au Granit, dans le cadre d'un projet assez vaste. On en dira peut-être un mot. Donc, c'est l'exposition dans la galerie du Granit et plus particulièrement où se passe l'entretien au-dessus d'une vitrine intitulée « Le joyeux désordre de la table à dessin de l'auteur de BD ». Mais évidemment, la proposition du Granit est assez originale et vous l'avez dit pendant le mot d'accueil avec le directeur du théâtre, c'est qu'elle propose un croisement entre votre univers d'auteur de bande dessinée, mais également avec le théâtre et un auteur russe dont on parlera un peu plus tard. Voilà. Peut-être, si vous voulez dire déjà un petit mot sur cet agencement un peu particulier de votre invitation dans cet agencement plus global. Sinon, après, on peut tout de suite évoquer cette vitrine au-dessus de laquelle nous sommes.
Oui, rapidement, sur les liens entre théâtre et bande dessinée, parfois il semble un peu évident, parce que le théâtre est un médium fait de dialogue, comme la bande dessinée, mais au fond du... Je sais pas bien s'il y a tant d'accointances entre le théâtre et la bande dessinée que ça. Il me semble que la bande dessinée a plutôt à voir avec le théâtre masqué. Là, oui, je serais assez d'accord. Mais en tous les cas, que Pauline Rinjade, la metteur en scène, dramaturge, se soit servie de certains de mes dialogues pour en faire une pièce qui s'appelle d'ailleurs La Pièce, j'en suis assez flatté parce que Pauline Rinjade est une dramaturge en devenir très très intéressante. Elle a monté déjà des choses absolument passionnantes et j'en suis à la fois fier et flatté. Alors, voilà. C'est vrai qu'on est au-dessus de cette vitrine qu'on a intitulé le joyeux désordre de la table à dessin de l'auteur de bande dessinée. Ben pourquoi ? Parce qu'en fait, on est là face à plein d'objets très très hétéroclites qui peuplent l'environnement de la table à dessin. Alors, ce sont des objets qui ont à un moment donné séjourné sur la table à dessin ou à côté de la table à dessin pendant des temps assez divers. Alors, on a beaucoup de taches d'encre de Chine, des bouteilles d'encre de Chine avec de l'encre séchée, beaucoup de porte-plumes, des chures de gomme, des bouts de gomme, un taille-crayon, une espèce de petit bout de machin bricolé, des croquis qui n'ont pas de sens, des croquis qui, au contraire, qui ont beaucoup de sens parce qu'ils vont donner naissance à des véritables mondes. On a évidemment des auteurs, Borges, voilà, il y a Buzzati, il y a Perec. Alors, il y a quelque chose d'absurde aussi, il y a l'art de la dédicace.
Pas, par exemple, par, Chaillant
Federico, voilà. Federico Chedanlo. Federico Chedanlo, donc là on est en. Voilà, c'est la blague Carambar, hein, Federico Chedanlo. Mais c'est F. Chedanlo, il fallait trouver le prénom.
Et c'est d'autant plus amusant que nous avons parlé hier hors micro d'un projet qui a eu lieu ici il y a quelques années, qui avait comme source directe l'activité de faire et de lancer des ricochets, donc c'est d'autant plus fou.
Tout à fait, c'est génial, c'est merveilleux. C'est une véritable conjecture.
Ouais. Conjecture.
Tout à fait, on a parlé de...
Tout à fait.
Voilà, ça pourrait être le nom d'une association super. Chedanlo, c'est le président d'honneur.
Mais c'est un véritable
de votre association.
Ce n'est pas juste la couverture, il y a vraiment un...
Non, c'est malheureusement une faute.
D'accord.
Je n'ai pas fait un ouvrage de 600 pages sur l'art de la dédicace.
Mais il est sûrement apparaître.
Il est sûrement apparaître.
Il est apparaître. Dans une prochaine, vie.
Je lance l'idée.
En tout cas, c'est très très réussi.
Voilà.
Voilà, donc ça, voilà, donc une constellation de documents.
Voilà.
Et peut-être nous arrêter sur des coupures de presse aussi, puisqu'en fait, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un, comme beaucoup des artistes curieux, qui fouinent un petit peu, qui furettent dans divers domaines, et vous vous nourrissez de tout ce que vous trouvez. Et entre autres, le portrait d'un artiste brut, peut-être on peut le nommer ainsi, André Robillard, et ses fameuses carabines... faites avec des matériaux,
faites avec des tubes en carton, du scotch, du sparadrap, une roue de jouet, une voiture d'enfant, voilà. Et il passe son temps à faire des carabines, des pistolets, des fusils. Évidemment, c'est de l'art brut, mais l'art brut m'a toujours touché. C'est un art qui va puiser tellement à l'origine de l'être qu'on ne peut être que sidéré, que fasciné par ça. Comme scotch, on ne sait pas où. Et c'est parce que justement on ne sait pas où que c'est beau et que c'est quelque chose de, simplement de sorte de vierge, de pur. Vous voyez, ce bonhomme, André Rébillard, il a la tête de ses fusils, quoi. Il y a un rapport direct entre sa tête, sans doute sa voix. Je ne l'ai jamais entendu, je n'ai jamais entendu parler, mais il est évident qu'entre ce qu'il dit, son visage et puis ses fusils, ce qu'il fait, il y a une corrélation, c'est évident. Il y a comme ça, voilà, une espèce d'ensemble. Un ensemble tellement cohérent, tellement fort. En plus, ce qui est gag, regardez, c'est que derrière dans son atelier, il y a Zidane, qui est le héros absolu, quoi, de la maîtrise totale, mais qui est un autre Zidane, en fait, qui est un autre individu qui travaille dans l'art brut, parce que finalement, un joueur de foot, est-ce qu'il ne fait pas de l'art brut d'une certaine manière? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui devient un artiste absolu malgré lui? On peut se poser la question.
Alors maintenant, à ce stade de l'entretien, j'avais envie de vous proposer un petit moment de lecture qui sera très court d'un des ouvrages de Sigismund Krasnanovski, qui est donc l'un des auteurs que Pauline Rajat propose de mettre en rapport avec votre univers, et pas l'ouvrage, les deux ouvrages qu'elle utilise, puisqu'elle en utilise deux autres, mais là, celui-ci, je l'ai lu il y a peu de temps, et c'est donc un titre déjà qui annonce, on va dire, la couleur, Estampillé Moscou, et je vous propose une petite, je vais le lire moi-même, et puis vous pouvez lire en même temps, puisque l'ouvrage est posé devant nous, donc ça débute ici. Lors des premiers séjours que j'ai passés à Moscou, j'avais l'impression de me trouver à l'intérieur d'un tourbillon de mots. L'alphabet en folie dansait autour de moi, grimpait sur les panneaux. Les affiches murales, les enseignes en fer blanc, peinture lurée, sortaient des paquets des vendeurs de journaux, m'écorchaient les oreilles de fragments de mots. Les caractères géants, noirs, rouges et bleus, emportaient mes yeux dans leur ronde. Les taquinaient du haut des toiles qui flottaient au vent, suspendues au-dessus des rues. Je vous propose de poursuivre.
Je marchais dans un chaos de lettres. Mes pupilles, d'abord attirées, se rétractaient de fatigue. Ces lettres, je m'efforçais de les esquiver ou de les traverser du regard, mais elles me retroussaient effrontément les paupières. Je cherchais sans cesse à se faufiler sous mes cils en un flot ininterrompu de taches de couleurs aveuglantes. La nuit, après avoir fait claquer l'interrupteur, je tentais de cacher mes yeux sous mes paupières. Mais le foisonnement des lettres s'animait en eux, refusait de s'endormir, se répandait en graffitis chamarrés sur l'oreiller blanc et s'agitait longtemps encore tout près de l'œil, s'accrochant aux cils, les empêchant de se refermer.
Alors j'ai vraiment volontairement extrait ce petit extrait parce que je pense que pour tout lecteur, quand on est confronté à un tel texte, on a un choc physique à la lecture. Et donc voilà, je voulais juste vous... Après, vous n'êtes pas obligé de le commenter, mais voilà. On peut peut-être se dire que Pauline Rajat a fait le bon choix de vous mettre en dialogue.
On peut faire confiance à Pauline Rajat, c'est clair. Merci encore et c'est un honneur de lire cet auteur. De toute façon, j'ai toujours considéré, et ça c'est vraiment intuitif ce que je vais dire, c'est qu'on est tellement proche de l'âme russe, on est beaucoup plus proche des Russes qu'on ne croit. Il y a une espèce de... C'est dommage qu'on se sépare des Russes pour des raisons purement politiques, c'est une espèce d'énorme connerie. Moi, je suis allé plusieurs fois en Russie et je me sens beaucoup plus proche d'un Russe, par exemple, que d'un Allemand. C'est pas pour ça que j'aime pas les Allemands, c'est pas du tout ça.
Bien sûr.
Mais les Russes, comme nous, aiment la poésie. La différence, c'est qu'eux, ils la chantent et nous, on la dit. La preuve, vous voyez, c'est que là, on l'a pas chanté,
oui.
Cet auteur.
On l'a lu.
Voilà. Mais c'est la seule différence. Pour le reste, on a les mêmes exigences, la même insolence vis-à-vis de l'histoire et les mêmes et beaucoup d'aspirations communes vis-à-vis de l'avenir.
Alors l'ultime question avant de clore donc cet entretien, je le répète, réalisé le jour du vernissage de l'exposition que je n'ai pas nommé Dédale, donc ici à la Galerie du Granit, c'était aussi, et c'est le but de ces petits entretiens à la volée, c'est de collecter pour la bibliothèque toujours des conseils de lecture, et c'est ce qu'on fait en général entre amis, entre proches. Quand on découvre quelque chose, on a envie d'en parler. Et donc, en plus de ce que vous montrez ici, vous avez participé à une collection assez originale qui est proposée à divers auteurs de BD d'illustrer une histoire qui a pour décor, pourrait-on dire, le Louvre. Et donc vous avez contribué, je crois, au deuxième numéro de cette série. Alors peut-être évoquer votre participation à cette collection et Question difficile, parce qu'il y a forcément beaucoup de projets déjà à ce jour. Peut-être évoquer un ou deux autres projets de cette collection que vous appréciez plus particulièrement.
Ouais. Alors, ce projet autour du Louvre, au départ, j'y avais répondu par la négative, parce qu'il me semblait un peu curieux qu'on m'ait demandé à moi, un auteur du surréel, un auteur de l'irréel, de l'art réel, un auteur qui prend clairement ses distances face à l'histoire et à la réalité. Je trouve ça curieux qu'on me demande à moi de témoigner du Louvre. Donc j'avais commencé par répondre non. Et puis les gens de Futuropolis ont insisté. Ils m'ont dit, mais non, justement, si on fait l'appel à toi, c'est justement, on veut un autre Louvre, un truc, vas-y, lâche-toi. Enfin bon, bref, j'ai très vite compris que c'était vraiment une carte blanche. Y compris venant d'ailleurs de Henri de Loirette, qui était à l'époque le directeur du Louvre. Un directeur, soit dit en passant, très éclairé, très ouvert et très bercé dans l'expérimental, quoi, dans le risque, dans une certaine forme de risque. Donc je me suis quand même un petit peu amusé à tenter la chose, à essayer un petit peu d'imaginer ce que ça pourrait être, et puis pris au jeu, finalement, des idées me sont venues, contre toute attente, hein, je n'y croyais vraiment pas au départ. Et puis ça a donné Les sous-sols du révolu, une espèce d'histoire un peu atypique, où je revisite d'une certaine manière la mise en abîme, la visite des profondeurs, le rebouchage du trou, des trous psychologiques, sociologiques, etc. Et donc, voilà, je me suis retrouvé à écrire ce livre, dont je m'aperçois finalement, après coup, que j'ai écrit un peu sur l'infini. Bien sûr, c'est drôle, bien sûr, il y a des situations cocasses, bien sûr, ça parle de l'art en général, de sa conservation, de sa transmission, mais in fine, ça parle surtout de l'infini. Pourquoi ? Parce que dans ce Louvre, dans ces sous-sols du révolu, dans ce sous-sol du Louvre que j'imagine infini, que je fantasme infini, eh bien finalement, je fais un portrait possible de l'infini. Pourquoi ? Parce que un musée, c'est un ensemble de monde. Chaque tableau étant un extrait de monde, hein, quand on va au Louvre, entre le scribe égyptien et puis un tableau du 16e ou du 17e, toutes ces œuvres sont des extraits de monde cohérent. Donc on peut imaginer qu'un musée comme le Louvre, dans sa magnificence, dans sa taille, dans sa grandeur, rassemble un nombre de mondes, un grand nombre de mondes. Donc on pourrait dire que le Louvre est un petit infini. Et c'est pour ça, sans doute, que inconsciemment, indirectement, j'ai fait ce sous-sol du Louvre infini. Voilà. Alors, j'ai fait cet infini-là, évidemment, en contournant l'écueil essentiel, c'était de regarder le Louvre en face. On peut pas regarder le Louvre en face. C'est comme si vous regardiez le soleil en face. Vous vous aveuglez. Vous avez mal à la tête après. Vous êtes incapable, vous devenez handicapé. Donc j'ai contourné le problème, vous voyez, avec une certaine malignité, certes, mais je suis retombé d'une certaine manière sur sur les sentiers de prédilection, les sentiers d'explorateur. Je me suis perdu dans les sous-sols du Louvre et j'ai fait ce résultat qui peut ouvrir des portes simplement sur cette notion d'infini.
Alors, justement, donc dans cette même série, il y en a d'autres. Alors évidemment, vous les avez peut-être pas tous eu entre les mains, parce qu'il y en a au moins 5-6, si ce n'est plus. Et donc peut-être, juste parce que c'est ça qui peut être intéressant aussi, on va dire avec une contrainte au départ, d'avoir des propositions très différentes et de voir peut-être en quelques mots si une de ces propositions vous a touché.
Moi, il y en a deux. Il y en a deux principalement qui me viennent clairement à l'esprit. C'est le livre de Nicolas de Crécy, le premier de la série, entre guillemets. Hein. C'est, encore une fois, c'est vraiment des cartes blanches. On ne peut pas parler de série.
Peut-être collection, peut-être. Voilà.
Mais le livre de Nicolas de Crécy, est intéressant parce qu'il est envolé et en même temps il donne une relecture du Louvre qui est à la fois une vraie réflexion sur qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que c'est que la représentation et jusqu'où elle peut aller. Et puis l'autre livre, peut-être le meilleur des propositions, c'est le livre de David Prudhomme, avec la traversée du Louvre, qui est un véritable petit cadeau fait à la fois au Louvre, fait aux artistes qui peuplent le Louvre, et puis aussi
aux visiteurs,
évidemment, puisque c'est un magnifique hommage au musée en général et aux visiteurs du Louvre. Il faut absolument lire la traversée du Louvre, là, bien sûr.
Très bien, alors Marc-Antoine Mathieu, avant vraiment de clore l'entretien, je propose qu'on convoque Léon Poelfalk, qui est cité sur ce carnet, ce passeport qui trône dans... qui figure dans cette vitrine dont je redis le titre encore, Le joyeux désordre de la table à dessin de l'auteur de BD. Donc j'ai tant rêvé que je ne suis plus ici. En tout cas, nous, on est bien ici ce soir à Belfort et on a été ravis de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Et merci infiniment d'avoir pris ce petit temps.
Merci beaucoup à vous.